Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Avec de la neige, bien sûr, pour ce vendredi 4 février. Il a neigé toute la nuit, cette neige et cette poudrerie par endroits, ben, c'est dominant ce matin. Une accumulation de 5 cm, et Marc a bien décrit là, l'impact sur le réseau routier, donc prudence ce matin. C'est plus ou moins bien déneigé. Et il y a déjà des sorties de route, donc il faut être prudent. Les vents iront jusqu'à 50 km/h, température stable près de moins 12. Et pour ce qui est de la soirée et la nuit, ben, la neige va finir par cesser tard ce soir, avec un minimum de moins 15. Donc c'est quand même assez froid, malgré la neige. Demain, samedi, c'est un dégagement le matin, avec moins 12 comme maximum. Et finalement, dimanche, davantage de nuages, il n'y a pas de neige de prévu. Maximum autour de moins 8 degrés. Avant de parler de Québec-Ottawa, puis tout ce qui entoure là, les règles de santé publique, je vais vous parler de la une du Devoir ce matin, qu'on appelle, le titre, là, « Le cancer dans l'angle mort ». Ça fait longtemps, longtemps, qu'avec des médecins, on a souligné dans cette émission à plusieurs reprises le sort des patients non-COVID, des gens qui ne peuvent pas être traités, qui sont placés sur des listes d'attente ou des gens qui n'ont pas accès à des tests de diagnostic, ce qui fait en sorte qu'ils vont probablement découvrir beaucoup plus tard qu'ils ont un cancer et que le pronostic sera donc moins bon pour eux. Alors, ce matin, ce que ça dit, c'est qu'il y a près de 160 000 tests de dépistage du cancer colorectal et 154 000 mammographies qui n'ont pas pu être réalisées au Québec depuis le début de la pandémie. Et on sait que dans le cas, en fait, ces deux cancers, ce sont des cancers qui tuent. Et là, il y a des médecins puis des patients qui dénoncent cette situation et racontent l'histoire de Sylvie Breton, qui a reçu un diagnostic d'un rare cancer du sein en 2018. Et elle n'a pas pu avoir accès à des essais cliniques puis à des tests génétiques. Et on sait que beaucoup de traitements en oncologie sont de plus en plus ciblés. Et même dans The Gazette, ce matin, on en parle. Plus on a un portrait précis de la nature de votre cancer, on est capable de faire un traitement un peu plus pointu, vraiment sur mesure pour le patient avec de meilleures chances de résultats. Alors, tout ça pour vous dire donc qu'on se retrouve, et c'est un exemple parmi d'autres, des dommages causés par la pandémie, par le fait que, puis on le sait tous, là, puis je le répète souvent, là, mais on ne refera pas l'histoire du système de santé en pleine crise. Là. Il y a des leçons qu'on va devoir en tirer, mais ce système qui est affaibli, qu'il est malade depuis longtemps, ne peut pas fournir aux Québécois les soins requis en temps voulu. Et ça, on le constate, c'était vrai avant, là, puis c'est encore pire pendant une pandémie. Alors, combien de gens à l'écoute ce matin sont en attente d'un test, sont en attente d'une chirurgie, sont en attente d'un traitement, puis on les repousse, puis ça va aller plus loin. Ce qui fait qu'il y a des gens qui décident de payer de leur poche, qui vont se faire soigner au privé, puis parfois dans une autre province, puis parfois aux États-Unis, puis parfois ailleurs, parce qu'ils ne veulent pas attendre et ils ont les moyens de se payer ce traitement-là. Revenons sur ce qui se passe à Québec et à Ottawa. D'abord, à Québec, forte, forte présence policière autour de l'Assemblée nationale, donc policiers de la Sûreté du Québec, policiers de la Ville de Québec. Et le message est assez clair, pas question de vous laisser approcher avec vos camions. Bon, vous allez vous stationner en périphérie, puis vous irez marcher, protester. Mais en parallèle de ce mouvement de protestation, il y a les activités du Carnaval de Québec. Alors, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quelques camions, pas beaucoup, d'autres qui vont se joindre au mouvement à compter d'aujourd'hui, puis ça va culminer probablement demain. puis des gens qui sont arrivés avec leur propre véhicule d'un peu partout au Québec et qui protestent contre les mesures sanitaires. Et hier, notre collègue nous disait tantôt, il y avait presque plus de policiers que de manifestants. Bon, tu sais, c'est pas chaud, il neige, etc. Évidemment, les merdias sont insultés, on s'est habitué. Puis, il y a quand même des gens qui ont voulu parler pour expliquer pourquoi ils se sont déplacés à Québec pour manifester.
On retrouve notre liberté. Plus de masques, plus rien. Qu'on retrouve notre vie normale.
On est ici pour la liberté, puis qu'enfin la vérité sorte au grand jour. On a assez de la corruption. On n'en veut plus de corruption. C'est terminé. C'est, gars, faut que ça change. Fait que tant que ça n'a pas changé, on va rester là. C'est sûr qu'on va rester là.
Que nos enfants enlèvent le masque de leur visage. Tout ça, c'est pour la liberté, puis pour revenir à ce qu'on était, puis pour que Legault démissionne. Et Trudeau?
Bon, pour que Legault et Trudeau démissionnent. D'abord, Legault démissionnera pas, et Trudeau non plus. Donc, c'est un siège permanent. Puis je regarde à Ottawa, ça fait une semaine. Il y a même quasi des installations permanentes qui sont aménagées. Puis le noyau dur qui est toujours là, l'intention de poursuivre l'état de siège. Alors, je reviens à Québec. Il y aura donc manifestation. Il n'y aura pas de députés de l'Assemblée nationale qui vont rencontrer les manifestants. Peut-être qu'ils ne veulent pas les voir non plus, mais autant la CAQ, le PQ, Québec solidaire. Puis Claire Samson, elle a dit « je ne veux pas être pogné dans le trafic ». Alors, ça n'a pas l'air une question idéologique, là. Ça a l'air plutôt que ça ne tente pas d'être dans un bouchon. Mais il n'y aura pas ces rencontres-là. Et c'est un peu le discours de la main tendue, mais en même temps, on n'est pas là pour négocier, puis on n'est pas là pour assouplir les mesures parce que les gens le demandent. Il y a eu des assouplissements, puis c'est venu de la santé publique. Puis je suis le premier à dire, là, ils sont mêlés dans leur flûte, notamment en ce qui concerne le sport. Puis on les suit parfois difficilement dans leur raisonnement. Alors, est-ce que en fin de semaine à Québec, puis là, le maire qui fait des appels aux gens en disant « Les commerces sont ouverts, les restos sont ouverts, venez-vous-en. » C'est sûr que c'est pas trop tentant d'y aller, là. C'est pas, tu sais, t'as pas le goût de te ramasser. J'ai un ami à qui je parlais hier qui s'est retrouvé à Ottawa. Pas trop apprécié l'expérience la semaine dernière. Donc, pour ce qui est de Québec, c'est à peu près le portrait. Pour ce qui est d'Ottawa, ben ça continue, puis on pense qu'il y a d'autres camionneurs qui vont se joindre. Mais là où il y a un potentiel danger, c'est que là, il y a des citoyens, et je vous le dis là, qui sont tannés pour vrai, et qui ont l'intention peut-être de faire ce qu'on appelle une forme de contre-manifestation, de dire là, on n'en peut plus, là. Et Justin Trudeau a dit hier, a répété, il n'est pas là pour négocier, puis il n'enverra pas l'armée. Puis il demande à la police de faire sa job. Réponse de la police la veille, on est à bout. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Alors, comment on va faire face à ce mouvement-là de gens qui ont l'air à avoir peu de choses à faire dans la vie, puis s'installer en espérant quoi que les mesures sanitaires soient abolies parce que des gens font du klaxon, puis gaspillent du diesel, polluent, puis dérangent les gens dans le coin? Qui va au-delà d'une simple manifestation. Et puis, d'ailleurs, en parlant des gens d'Ottawa, il y a un mystère autour du fameux 10 millions de dollars amassés dans le GoFundMe. Il semble que le compte a été gelé, qu'il y a même des donateurs qui ont reçu un remboursement. C'est pas trop ce qu'ils font avec l'argent. Et c'est pas trop clair. Une des organisatrices a dit hier qu'il fallait lever cette espèce d'embargo là, sur le compte, qu'ils ont fourni des explications et que les règles sont respectées. GoFundMe répond qu'ils sont en contact à la fois avec les organisateurs et à la fois avec les services policiers pour être sûr qu'il n'y a pas une forme de fling-flang ou de fraude potentielle dans cette affaire-là. Alors voilà pour ce qui est des protestations. On poursuit un peu sur le dossier COVID dans le sens où la santé publique clarifie à nouveau son message aux sportifs. Peu importe votre statut là, scolaire, civil, le port du masque est recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Puis je disais hier, on peut-tu se servir de sa tête? Mais je comprends aussi que quand on est entraîneur puis qu'on doit faire respecter des règles comme ça, ben on veut une directive claire. Ça, c'est le problème du cafouillage en santé publique. C'est quand on est mêlé, quand on se contredit, quand on fait tellement de petites catégories que ça devient incompréhensible, même pour les gens de bonne foi puis les gens de bonne volonté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous le recommande, mais que c'est pas obligatoire, puis vous serez pas toujours en train de l'enlever quand vous jouez, quand vous êtes sur la patinoire. On vous demande en même temps, dans vos déplacements, par exemple, à l'intérieur d'un aréna ou encore dans les vestiaires, de porter le masque en question. Et on dit également que le masque demeure obligatoire en tout temps pour les gyms. Ça va être encore là un élément de discussion. Et en parallèle, vous avez ce mouvement dont Alain parlait tantôt, d'équipes sportives, toutes catégories confondues, qui veulent jouer, le goût de jouer, le besoin de jouer. Et ce mouvement-là est assez fort. Puis la ministre Charest, qu'on respecte, là, mais qui décide de peu de choses, là, qui attend toujours les avis de santé publique, elle n'a pas le choix, là, dit « Soyez patients, ça s'en vient ». Alors, on va en parler aussi ce matin avec le docteur Boileau, là, le directeur de la santé publique. Puis on remarque également une augmentation du nombre d'enfants. Ça demeure un faible pourcentage, mais je suis convaincu que quand vous faites le tour de vos amis, de vos proches, des membres de votre famille, vous connaissez tous quelqu'un qui, depuis les 10 derniers jours, des gens qui ont des enfants là, qui se sont retrouvés avec des cas de COVID présumés, des enfants testés positifs, des enfants qui ont été retournés, des profs également. Donc, il y a quand même un nombre élevé. Puis on ajoute aussi qu'il y a eu quand même plus d'enfants hospitalisés cet hiver durant la vague, c'est dans la presse de ce matin, selon les données de l'Institut national de santé publique. On parle de à peu près 200 jeunes là, de moins de 5 ans qui ont été hospitalisés. Puis on ne connaît pas tout l'historique médical de ces enfants-là, mais des enfants qui peut-être étaient plus vulnérables, peut-être d'autres maladies chroniques, ça reste à voir. Maintenant, le dossier des primes, des salaires des employés du réseau de la santé. Le ministre Christian Dubé s'est dit gêné de voir des employés utiliser les réseaux sociaux pour dire « Employeur, gouvernement, tu me dois 3 800, tu me dois 7 200. » Quand tu promets des primes, quand tu promets des avantages puis que tu n'es pas capable de livrer, je comprends pourquoi il est gêné. Puis on lui avait soulevé la question cette semaine, puis il avait promis d'y voir. Et ce que je comprends, c'est qu'il n'accepte pas les réponses qu'on lui donne. Dans le fond, on ne veut pas savoir trop ce qui est arrivé, on veut juste que ça soit corrigé. Et on peut parler peut-être des problèmes informatiques, mais on peut-tu parler de la bureaucratie qui est en charge de tout ça? C'est-à-dire que selon l'endroit où vous vous trouvez au Québec, il y a des priorités différentes. Puis je vais ajouter juste quelques chiffres pour vous montrer que le mammouth, c'est compliqué, là. C'est qu'il y a 286 primes avec une combinaison multiple. Imaginez le nombre d'équations potentielles pour les payes qui doivent être préparées et l'argent versé. Puis c'est sans compter la gestion locale qui a ses priorités. Fait que ça prend combien de temps, vous pensez, à rentrer ça dans la machine? C'est un autre exemple de la bureaucratie lourde où on n'est pas capable. On fait des promesses, puis t'es de bonne foi, tu dis, moi, je vous donne l'argent, je veux convertir votre poste à temps plein, je veux que les gens reviennent, je suis conscient de l'effort que je vous demande, mais quand vient le moment de mettre ça dans votre compte de banque, je suis pas capable de le faire parce que le mammouth ne suit pas. Le mammouth, c'est gros, c'est lourd, c'est pesant, puis ça bouge pas vite. Et c'est vrai que c'est frustrant pour les employés. Également, je reviens ce matin sur ces trois entraîneurs. Et on en a beaucoup parlé avec Bénédicte, puis un peu aussi hors micro, là. Au-delà des accusations de nature sexuelle, on se rend compte qu'on est en train de découvrir, petit bout par petit bout, ce qui semble être un climat toxique. On sait qu'il y a toujours dans le sport d'élite beaucoup de pression, puis il peut y avoir, comme on dit, un niveau d'exigence élevé, mais ça peut déraper. Et souvent, cette violence, cette manipulation bascule dans des cas, justement, d'agression sexuelle. Donc, trois entraîneurs, Daniel Lacasse, qui était le responsable, les deux autres, Robert Loup et Charles-Xavier Boilard, qui font face maintenant à une série d'accusations. Puis il y a aussi le débat sur la langue hier. François Legault, pas sa grosse semaine, là, qui a fait une dérape encore une fois en laissant sous-entendre que... puis ça n'a pas été capté par des micros, là, c'est une espèce de blague là pour écœurer les libéraux, en disant que les francophones, les vrais Québécois, ce sont des membres de la CAQ ou des gens qui sont sympathisants de la CAQ. Alors, disons que qui est Québécois, là? T'sais, quand surtout que tu as fait une campagne de pub assez moyenne sur le sujet, disons que d'aller prétendre que les caquistes, c'était des vrais Québécois, puis laissant quoi, sous-entendre que les autres ne le sont pas, il peut bien faire des blagues. Mais il est premier ministre du Québec, puis on est en plein débat sur Dawson. Puis encore ce matin, je regardais de Gazette, puis il y a de la grogne dans la communauté anglophone. Quand tu te fais dire, on va vous trouver des locaux, mais il n'est pas question d'investir alors qu'on l'avait promis. Puis là, on est en train, justement, encore de rajouter de la tension entre les francophones et les anglophones. Et puis, on va vous parler des Jeux olympiques, situation en Ukraine également. Et la dernière rumeur qui circule, c'est que les Russes ont l'intention de mettre en ligne une fausse, en fait, une espèce de scénario là, de propagande pour montrer une espèce d'attaque ukrainienne qui viendrait comme justifier une offensive militaire de la part des Russes.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Pendant qu'à Ottawa, rien ne se passe, c'est-à-dire que les manifestants poursuivent leur siège, personne n'a l'intention de quitter. Je dirais même qu'on est en train de voir l'installation de structures un peu plus permanentes. M. Trudeau dit qu'il n'y a pas question d'envoyer l'armée, pas question de négocier non plus. À Québec, il y a les premiers manifestants qui sont arrivés, premiers convois, d'autres sont prévus pour aujourd'hui. Je fais le point avec le maire de Québec, Bruno Marchand. M. Marchand, bonjour.
Bon début de journée, M. Arcand.
D'abord, si vous aviez à me décrire un peu ce qui s'est passé hier dans votre ville, là, à ce sujet, manifestants, policiers, qu'est-ce que vous me diriez?
Je dirais que ça a bien été. Je dirais que les manifestants ont été respectueux. Il y a toujours quelques écarts. Il y a eu une dizaine de constats d'infraction qui ont été émis, un petit peu plus que ça. Mais ça a été, pour la très grande majorité, très respectueux. Ça s'est soldé rapidement en milieu de soirée. Et la vie a suivi son cours et la circulation est rétablie. Ce matin, tout va bien.
Est-ce que vous savez ce qui est prévu aujourd'hui ou ce sont des surprises que vont vous réserver les organisateurs?
Ben, il y a une partie qui est discutée avec le service de police de Québec. Les éléments les plus importants sont prévus demain. La manifestation avec l'ajout de gens qui vont venir de l'extérieur. On parle de demain en milieu de journée, le début de l'après-midi. Alors ça, c'est ce qu'on sait. Aujourd'hui, il ne semble pas y avoir de nouveaux ajouts. Il y aura sûrement quelques personnes qui vont s'ajouter, là, mais il ne semble pas avoir de convois qui vont s'ajouter. On verra. Tout est prévu pour ce qui est à ajouter demain.
OK. Pour ce qui est de samedi, là, où c'est, en tout cas, d'après ce qu'on comprend, le moment où il y aura le plus de manifestants, qu'est-ce qui est prévu? On les laisse manifester à pied? On les laisse stationner en dehors du périmètre? C'est quoi le plan de match?
Ben, c'est exactement ça. Alors, la manifestation est un droit. Les gens ont le droit de revendiquer, de demander, d'exiger, d'exprimer ce qui est important pour eux. Ils peuvent le faire. Ils vont devoir le faire à pied. Le parcours autour du Parlement, dans son versant sud, dans son versant est et ouest, est complètement piéton pour des raisons carnavalesques, parce que c'est le carnaval et il y a vraiment là une sécurité qui est accrue. Alors, les gens vont pouvoir venir, ils vont pouvoir être en sécurité. Mais du côté nord, donc René Lévesque, ceux qui connaissent Québec, là, il y a une voie de circulation qui est encore accessible. Les camionneurs vont pouvoir circuler s'ils le veulent ou les manifestants, mais principalement à pied. Et les autres vont devoir se stationner plus loin pour monter à pied vers la colline parlementaire.
OK. Est-ce que, par exemple, les camionneurs pourraient, décider de s'installer et de stationner carrément sur René Lévesque puis bloquer la circulation?
Non. Non. Alors, ça, c'est. Le service de police a été très clair et ils vont continuer d'être très clairs. La circulation, c'est non négociable. Ça fait partie des gestes qui ne sont pas tolérés, qui ne sont pas acceptables et ça ne sera pas toléré.
Est-ce que je peux me retrouver, mettons que je pars de Montréal, je veux aller passer le week-end à Québec pour le carnaval, mêlé dans la manif? Autrement dit, je me promène là, autour des activités du carnaval, puis je suis dans la manif en même temps ou pas?
Bien, en fait, c'est pas très loin, là. Donc, votre question est légitime, là. C'est vraiment pas très loin au sens où ceux qui connaissent bien là, le devant du Parlement où d'habitude les gens manifestent, c'est tout près du château de Bonhomme. Cependant, les espaces vont être bien délimités, la sécurité va être très claire. Les policiers vont aussi à la fois permettre aux manifestants, mais éviter le choc entre les deux. Donc, c'est possible que vous voyez les manifestants, c'est possible que vous les entendiez. Mais dans la mesure où tout ça se fait dans le respect, votre sécurité ne sera pas compromise. Et s'il y a pas, on respecte pas les règles, les policiers vont intervenir.
Dans le fond, là, si je résume, vous voulez éviter de vous retrouver dans les situations d'Ottawa. Vous les faites bouger. Vous voulez pas qu'ils s'arrêtent puis qu'ils s'installent.
Absolument. Absolument. Il n'y a personne qui a le droit de s'établir sur René Lévesque, d'établir son campement parce qu'il y a une cause qui dit qu'il est noble. C'est pas plus permis pour vous si vous venez dimanche, si vous venez la semaine prochaine. C'est pas plus permis des manifestants aujourd'hui, ni samedi. Cependant, vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de crier votre désaccord, vous avez le droit de dire au gouvernement ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, mais vous devez le faire dans le respect. Et ça, ça implique de respecter les citoyens de Québec, ça implique de respecter les commerçants. On en a parlé, vous et moi. Mm-hmm. Il y a des commerçants présentement qui voient l'annulation de réservations. C'est pas une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui m'attriste très fortement. Dans la première fin de semaine de relance après les mesures sanitaires de la période des fêtes, ben moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va tout faire pour s'assurer que ce carnaval-là ait lieu, que se fasse dans la festivité, que se fasse dans l'espèce de momentum où on est en presque sortie de crise, que les gens puissent venir, se sentent en sécurité avec leur famille, vivre les glissades, vivre le château, vivre la frénésie, vivre un peu de lumière dans cette période un peu plus sombre.
Je vous demanderai pas de jouer au gérant d'estrade, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire au maire d'Ottawa, à part de dire qu'il fait pitié?
C'est facile, hein? C'est facile à distance de savoir ce que les autres devraient faire. Je vais me préserver de donner quelques conseils que ce soit. Nous, ce qu'on s'est permis de faire, c'est d'apprendre de ce qui avait pu être vécu là-bas. On a une chance, si c'en est une, de venir après, donc de comprendre, d'apprendre. Je dois avouer aussi que nos corps policiers, puis je fais principalement référence au service de police de Québec, ils en ont vu d'autres. Moi, je suis élu depuis 3 mois, mais les réunions que j'ai eues d'information pour me partager le travail qu'ils font, le respect qu'ils ont pour les manifestants, mais aussi l'intolérance qu'ils ont envers les gestes illégaux, le niveau de préparation qu'ils ont avec des scénarios à n'en plus finir pour être prêts à toute éventualité, je salue nos policiers, ils sont vraiment d'aplomb.
Je prends un exemple ce matin, là, puis c'est ce qu'on m'a dit, puis vous me corrigerez si c'est pas ça. Par exemple, les policiers ont permis qu'on stationne, disons, une espèce de camion symbolique là, avec les « fuck oui. Trudeau »,« fuck Legault ». C'est-à-dire un camion, prenez vos photos, mais ça va être le seul camion qui va stationner là.
Oui, c'est exactement le cas. Alors, c'est un symbole pour les manifestants. On respecte le fait que ce symbole-là est important pour eux. C'est pas nous autres qui choisissons les messages que les autres envoient. Mais oui, ça fait partie du symbole. On a permis ça, on a laissé de l'espace pour ça, mais ça va être le seul qui va être là.
Je comprends, là, on parlait de vos commerçants tantôt là, qui vivent des annulations. Là. Avez-vous l'impression quand même que ça va être de courte durée, puis que même s'il y a malheureusement des pertes là, puis des réservations annulées en fin de semaine, que ça sera un épisode court, tout ça?
C'est ce qu'on souhaite. Alors, je peux pas vous le promettre parce que je suis pas dans la tête des manifestants. Certains disent qu'ils veulent rester, mais nous, ce à quoi on travaille, c'est de dire aux manifestants, on va vous laisser l'espace pour le faire, on va vous laisser les jours pour le faire, mais il faut que ça aille une fin. Ça peut pas être comme à Ottawa. On peut pas prendre une ville en état de siège. C'est inacceptable. Alors, on va vous permettre de manifester, de revendiquer, mais en même temps, c'est pas vrai que ça va avoir des contraintes sur l'ensemble de la ville. Je parlais hier avec le premier ministre du Québec, M. Legault. On était tous les deux préoccupés, puis il me disait qu'il faut que les gens viennent à Québec, il faut que les gens acceptent de dire ben on va. Oui, les gens ont le droit de manifester, mais c'est pas vrai que parce qu'on manifeste, tout doit mourir, tout doit s'éteindre, tout doit se fermer. Revendiquons aussi le droit de vivre cette sortie de crise, de vivre le carnaval dans sa beauté, dans cette fête hivernale que c'est, reconnue mondialement. Et encourageons nos restaurateurs, encourageons nos hôteliers. Ça va être sécuritaire.
Comme m'a écrit un de vos citoyens restaurateurs de Québec, c'est pas le temps de fermer la lumière quand on vient tout juste de la rouvrir.
C'est la bonne façon de dire ça. Quand on vient tout juste de sortir de la pénombre, il n'y a personne qui a envie de fermer la lumière, c'est dur. Là. Les gens, je vous le répète, puis vous le savez, je vous apprends rien. Mais quand ça fait 4 fois qu'on te ferme, qu'on t'ouvre, pour des bonnes raisons, là, puis moi je conteste pas ça, il en demeure pas moins que même si nos restaurateurs sont intelligents, ils comprennent, à chaque fois vivent avec leurs inventaires, les pertes, vivent avec la clientèle qui s'en va, qui revient un petit peu, qui revient pas beaucoup, rétablir la confiance, les employés. Pensons aux employés, là, ces gens-là ont dû mettre à pied des employés qui reviennent au compte-gouttes, qui reviennent pas toujours, certains se sont trouvés un emploi. C'est dur de réouvrir à chaque fois. Moi, je pense que comme communauté, on a à faire écoute envers nos commerçants, envers nos organismes culturels, envers tous ceux qui font que notre société est ce qu'elle est, envers cet âme-là. Et c'est ce qu'on va faire en fin de semaine.
On va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Merci, M. Marchand.
Merci, M. Arquin.
Au revoir. Bruno Marchand, le maire de Québec, et tantôt on ira sur le terrain avec nos collègues du FM 93 puis d'Ottawa pour voir un peu quelle est la température de l'eau ce matin.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Disons qu'on a eu de la difficulté à suivre cette semaine le message de la santé publique concernant la reprise des activités sportives. Le masque, pas de masque, civil, scolaire. Le docteur Boileau nous donne une entrevue. Par la suite, le ministère de la Santé ne nous dit pas tout à fait ça. Alors, on va essayer de comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de dirigeants d'associations de sport qui écoutent ce matin. Il est avec nous, Luc Boileau, donc directeur national de la santé publique. Docteur Boileau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
C'est pas une semaine facile pour comprendre les messages.
C'est pas une semaine facile pour comprendre les messages, mais c'est pas une semaine facile pour les écrire. C'est que ce qui arrive, c'est que quand on suggère des mesures et que ça se transporte dans des arrêtés avec des règles, ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça devient vraiment compliqué. Alors, on a voulu simplifier ça. En fait, c'est après votre entrevue, franchement, M. Arcand, faut que je vous donne ça, là. Ça et bien d'autres choses. Ça nous a aidé à se dire là on va simplifier ça. Puis on l'a mis comme une recommandation. Tu sais, c'est pas une obligation, puis on va avoir des contraventions si on ne le porte pas, etc. C'est une recommandation. Dans le contexte de la pandémie où ça circule encore beaucoup, sachons se protéger, protéger les autres et nos familles.
Alors, la recommandation, c'est de porter le masque. Donc, vous recommandez de porter le masque pour les activités sportives. Mais c'est pas obligatoire.
Exactement. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et je comprends qu'il y en a qui vont dire, ben là, c'est pas obligatoire, moi, j'aurai pas de contravention, je le porterai pas. Mais sachons, c'est reconnaître qu'il y a encore une forte contagion et que c'est mieux de le porter que de pas le porter. Mais il y a des situations, et vous le savez, puis les auditeurs le savent bien, où là, ça peut être vraiment plus difficile. Si on fait un sport très intense, on joue au hockey, surtout quand on va faire des compétitions, ça s'en vient, parce qu'on est sensible à ce mouvement que vous signaliez. Mais c'est ça, essayons de le porter le plus possible, et on va laisser ça au jugement de chacun, mais j'espère que chacun va faire un jugement pour lui et pour l'autre.
Il y a un vieux dicton qui dit que ceux qui ont du jugement en ont et que ceux qui en ont pas en auront pas de toute façon. Alors, c'est aussi bien de se fier sur le jugement de la majorité pour être sûr que la règle soit suivie, qu'on n'a pas besoin de se faire prendre dans le micro-détail et par la main, là.
Exactement, puis vous le dites bien, puis c'est là où est-ce que on franchissait une ligne qui était devenue difficile à tenir, puis je le reconnaissais, puis écoutez, c'était pas mon intention, sûrement pas, là, mais quand vous nous avez ramené ça au visage, je pense que ça a été tout à fait correct, puis la réaction a été correcte partout, là. Je veux dire, on n'a pas dû se battre avec le gouvernement pour ça, c'est devenu, puis même, il le comprenait aisément, alors c'est plus dans ces propos-là qu'il faut garder le sens du gros bon sens, comme vous l'encouragez. Mais gardons le gros bon sens, puis gardons le masque au visage, puis le masque bien placé, là, pas juste en dessous du nez, là, le masque bien placé à tout moment. Puis s'il y a des situations qui le permettent, là, on peut l'enlever. Regardez, là, des gens qui jouent au tennis, on me disait, ben finalement, les gens qui jouent au tennis vont avoir une contravention s'ils n'ont pas le masque. Mais voyons donc, on n'est pas pour donner des contraventions à des gens qui jouent au tennis. Par contre, quand ils ont fini de jouer au tennis, ben ils remettent le masque, c'est correct, là, mais ils sont à distance de... Je sais pas combien de mètres ou combien de pieds. Ça fait que ça va dans le sens du bon jugement.
J'allais dire, quand tu vas au restaurant, tu enlèves ton masque pour manger, puis tu le remets quand tu te déplaces. C'est pas si compliqué que ça, là. Je veux dire, ça me semble relativement facile à comprendre. Les gyms, là, c'est quoi la directive exactement?
Les gyms, la directive en ce moment, c'est d'abord qu'ils ouvrent, là, et je pense que ça va faire du bien à tout le monde et à eux autres aussi, c'est d'avoir le passeport vaccinal obligatoire et c'est de porter le masque. encore là, dans les gyms, il peut y arriver. C'est pas moi. Écoutez, je vais le dire comme ça, là. C'est pas moi qui va aller dans le fond du gym, quelqu'un qui est en train de courir sur un tapis roulant, puis qui a chaud, puis qui enlève son masque, qui est seul dans le coin. J'irai pas y donner une contravention. Là. Je veux dire, faut servir de sa tête. Mais c'est de faire en sorte qu'on porte le masque le plus souvent possible. Dans les gyms, c'est pas toujours des efforts grandioses qui sont faits, puis c'est correct, mais il y en a qui en font des gros, sont tout en soir, mais c'est de se mettre à distance, puis s'il faut enlever le masque parce qu'on se sent très inconforté par ça, ben c'est de s'arranger pour qu'il n'y ait pas quelqu'un autour de soi ou à proximité, ou d'avoir, comme ils le font dans la plupart des plexiglas, qui assurent une certaine distanciation, en tout cas un risque diminué. Fait que c'est dans cet esprit-là. Mais dans les gyms, c'est resté obligatoire, mais comme je vous dis, là, je pense qu'on n'enverra pas des polices pour aller checker là, qui court, puis qui le porte, puis qui le porte pas, mais c'est encore là. Ça, je ne l'ai pas changé. On garde ça obligatoire. Ça va évoluer, M. Arcand, ça va évoluer parce que la pandémie va progresser, espérons-le, du bon côté, mais elle va évoluer mieux et plus vite si tout le monde, on se donne une occasion de comprendre que c'est pas juste les règles qu'il faut suivre, c'est le bon jugement de dire on se protège, puis on protège les autres, parce que ça circule encore énormément.
Quand vous dites évoluer, là, je pense à la dernière fois où c'était le masque pour les déplacements d'un appareil à l'autre, par exemple, puis pouvoir faire l'exercice sans le masque. C'est un peu ça, la prochaine étape?
Ben c'est ça, oui, là, dans le sens que, mais c'est dans le sens que éventuellement, on n'aura probablement pas besoin tout du le monde de porter des masques. C'est ça, de masques partout. C'est comme vous parliez des restaurants. Je ne sais pas, pour faire une règle de dire quand on mange une soupe, on finit, on remet le masque, puis après ça, on mange autre. Tu sais, à un moment donné.
Tombez pas là-dedans, là.
Ben non, ça. non, c'est parce que vous allez m'inviter trop souvent.
Non, mais je pense que non, mais c'est ça qui arrive, c'est que quand on est dans le détail, on, c'est là qu'on comprend plus rien, puis c'est là qu'on se perd, puis qu'on se contredit. Je veux revenir sur le mouvement là. On veut jouer là. Vous êtes conscient de ça. Puis là, c'est pas juste on veut pratiquer, puis on veut pouvoir se faire des passes. Là, on veut être capable de jouer. Les matchs reprennent dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Êtes-vous capable ce matin? Bon, je sais que vous comprenez cette demande-là, là, mais de donner un horizon pour la reprise vraiment des matchs comme tels, des compétitions.
Je peux pas vous donner un horizon exact, là, M. Arcand, parce que d'abord, je dois faire ces recommandations-là au gouvernement, au ministre, au premier ministre. Et donc, je préfère traverser ces étapes-là, mais on l'a devant nous. On le sait qu'on veut se rendre là rapidement. Et tout ça va... Écoutez, quand on parle de ces mouvements-là, on est hyper sensible à ça, on a beaucoup de pression. Moi, je joue pas au hockey, là, mais j'ai eu l'impression de me faire rentrer dans la bande une couple de fois là, dans les derniers jours, puis c'est correct, là, je l'accepte fort bien, mais il faut juste se donner un petit peu de temps. Et en ce moment, M. Arcand, la semaine qui vient et l'autre semaine d'après sont critiques pour voir est-ce que les hospitalisations vont continuer à descendre ou vont malheureusement remonter ou se stabiliser serait déjà pas pire, mais mettons pas remonter. Et ça va aider pour tout le déconfinement beaucoup. Donc c'est dans un horizon assez proche.
Je vous écoute, je comprends que c'est assez proche, mais ça arrive souvent, pas vous là, mais puis votre prédécesseur, puis M. Legault nous disait ça, le mois de janvier va être critique, les deux dernières de janvier. C'est que quand on dit ça aux gens, que les deux prochaines sont critiques, puis qu'après ça, il se passe rien, puis qu'on se refait dire que oui, mais ça va être les deux autres qui vont être critiques. Vous n'avez pas peur que le message s'effiloche un peu?
Oui, je suis très conscient de cela. Là, on peut pas tenir tout le monde en disant, regardez, là, ça achève, finalement, ça achève pas. Là, comme Woody Allen le disait, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Là. Donc, il faut, à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste et puis qu'on comprenne ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe et ce qui se désire. Puis je crois que les gens ont fait beaucoup d'efforts, mais vraiment beaucoup d'efforts. Regardez, les résultats sont très bons, mais c'est sûr que on n'est pas encore prêt à lever tout parce qu'il y a encore, écoutez, on est encore à 2600 lits là, qui sont utilisés pour des patients de COVID. C'est beaucoup, un peu moins que 200 lits aux soins intensifs. Ça reste fragile. Donc, puis les gens de ce côté-là sont épuisés. Vous le savez, il y a des gens qui n'ont pas accès à tous les services qu'ils souhaiteraient. Puis on peut avoir d'autres problèmes avec les cancers, avec d'autres maladies. Donc, faut garder un équilibre dans tout ça. Mais soyez assurés que toutes les énergies sont mises pour qu'on fasse le bon calcul, mais je continue à prétendre que si les deux prochaines semaines vont bien, ça va bien aller pour longtemps.
Et qu'on va pouvoir organiser des matchs.
Et qu'on va pouvoir non seulement organiser les matchs, d'aller les voir, de s'amuser, puis de revivre, comme tout le monde le souhaite, avec, encore là, une certaine gradation. Là, on ne pourra pas tout lever dans deux semaines, mais je pense que on est sur une bonne route en ce moment, continuons à l'être, puis allons chercher la dose de rappel. Ce serait tellement plus facile avec ça, mais je peux pas le dire plus, là, puis je vois bien que les gens ne vont pas tous la chercher. Là, j'ai pas l'influence que je souhaiterais, puis mais ça n'empêche pas là, que faut que je le répète, parce que c'est bon pour eux autres, c'est bon pour tout le monde, mais c'est surtout bon pour eux autres.
Merci, Dr. Boileau. Bonne journée.
Merci, M. Arcan. Bonne journée.
Dr. Luc Boileau, qui est le directeur national de la santé publique par intérim.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Justement, il a soulevé ce qu'on appelle les effets de cette pandémie sur les patients non-COVID. C'est la journée mondiale contre le cancer. Et ce matin, dans Le Devoir, vous avez des chiffres. On en a déjà parlé, mais disons que c'est peut-être plus documenté que depuis le début, justement, de cette pandémie, 160 000 tests de dépistage du cancer colorectal n'ont pas eu lieu. De même que 150 000 mammographies. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire malheureusement des cancers qui seront détectés plus tard, puis dans certains cas peut-être trop tard. Docteur Martin Champagne est avec nous, président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Docteur Champagne, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Ces chiffres-là, là, on parle de deux cancers précis. Là, est-ce que pour vous, c'est conforme à ce que vous sentez, ce que vous voyez dans votre pratique, puis dans la pratique de vos membres?
Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu énormément de retards qui sont survenus lors de la première vague et lors de la présente vague. Si la mammographie a été durement touchée comme dans le premier délestage là, de la première vague, on a su maintenir un rythme par la suite, puis on n'a pas arrêté les activités de dépistage par mammographie, bien qu'il y ait eu certains retards ponctuels là, à cause de l'absence de techniciens ou de médecins pour lire, donc certaines difficultés donc vraiment limitées. Pour ce qui est du colon, cancer du colon, ça, il y a quand même un grave déficit, parce qu'on sait que les tests de dépistage, parce que le dépistage commence donc par la recherche de sang caché dans les selles. Donc, ça prend un test. Il faut une prescription de votre médecin. Donc, la difficulté à avoir accès à son médecin. On sait que pour la période de 2020-2021, dans certaines régions comme Mauricie, centre du Québec, il y a eu une réduction de 32%, pour être plus précis, donc du test de dépistage de sang dans les selles. Alors, donc, il y a beaucoup moins de gens qui sont envoyés en coloscopie parce que vous avez besoin d'une test avec une caméra si on découvre du sang dans vos selles. Et ça, on a accumulé plus de 50 000 coloscopies de plus en attente. Donc, on est rendu à 150 000 coloscopies en attente malgré les efforts qui ont été faits. Et là, ça a été durement touché par la nouvelle vague, là, la récente vague. Et encore, on n'a pas repris les activités. Or, on sait que quand on fait un programme de dépistage comme celui du cancer du sein, comme celui du cancer du côlon, l'objectif, c'est de réduire de 10 à 20 la mortalité par ce type de cancer-là. Pourquoi? Parce qu'on trouve des tumeurs plus précoces, donc plus petites, donc à un stade où elles ne sont pas métastatiques, ce qui veut dire pour les patients donc des chances meilleures de guérison d'une part et des interventions moins importantes. Si votre cancer est à un stade plus avancé, en plus d'une chirurgie, vous allez avoir besoin parfois de chimiothérapie ou de radiothérapie en surplus. Mais... Alors, on sait donc que tout ce retard-là va résulter donc en un risque de mortalité plus important, puis une morbidité, donc un coût santé pour les patients plus important à cause de l'intensité des traitements qui sera requis.
Si je remonte à la première vague, là, où il y a eu justement report ou annulation de ces examens, de ces tests-là, est-ce que dans la pratique, encore une fois, vous avez commencé à avoir justement des patients, je dirais, en plus grand nombre et plus durement touchés parce qu'on n'a pas pu les diagnostiquer avant?
C'est l'expérience de tous les gens en pratique en oncologie de dire que on voit des patients avec des maladies plus avancées, des patients qui parfois auraient pu être traités puis qui arrivent dans un état tel qu'on n'est même pas en mesure d'offrir un traitement. Ce sont des patients qui sont très vulnérables. Présentement, dans la première vague, dans la présente vague, on voit des patients qui sont hospitalisés, qui attrapent malheureusement la COVID de par leur séjour à l'hôpital ou de par leur entourage, parce que c'est tellement contagieux. Et la COVID fait que chez ces patients-là, ils sont trop faibles, ils n'arrivent pas à remonter la pente, donc on retarde les traitements, le cancer progresse. Alors, c'est l'expérience de tous les oncologues de vous dire qu'on voit des patients dans un état de maladie plus avancé, et beaucoup de patients, on n'est pas en mesure de reprendre ou d'entreprendre des traitements. Alors, c'est très grave ce qu'on voit, et malheureusement, la difficulté au Québec, c'est d'obtenir des chiffres. Alors, on n'a pas de registre opérant. Le ministère est encore en train de colliger des chiffres d'il y a quelques années pour ce qui est des stades de cancer, de la maladie. Alors, donc, tout ça fait que c'est très difficile d'évaluer l'ampleur de la chose. Donc, aujourd'hui, on a des nouvelles données, là, selon ce qui est cité dans le Devoir, donc qui nous montrent les retards importants que vous mentionniez tout à l'heure. Mais c'est très difficile d'obtenir des chiffres plus précis. Mais on soupçonne qu'il y a un nombre de patients, un nombre significatif de patients qui n'ont pas été diagnostiqués d'un cancer quand on regarde par rapport aux cohortes historiques, donc le nombre de cancers diagnostiqués actuellement par rapport à ce qui était dans les années passées. Et donc, notre expérience sur le terrain, c'est de voir des maladies plus avancées.
C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'angle mort, là. C'est vraiment, puis là, on parle de deux cancers précis, mais on peut ajouter d'autres formes de cancer ou d'autres types de maladies où c'est à peu près le même portrait, le même constat qu'on peut faire.
Écoutez, je ne sais pas, M. Arcand, si on peut parler d'angle mort. Ça fait déjà 2 ans qu'on interpelle donc le gouvernement à cet égard-là. Et il s'est fait de par la force des choses. Puis je n'ai pas la réalité des gens qui sont hospitalisés pour la COVID puis les soins qui en découlent, mais par la force des choses, on a fait un choix de société de traiter des patients qui avaient la COVID plutôt que de traiter des patients qui ont besoin de chirurgie de la hanche ou plutôt que des gens qui ont certaines maladies du cœur ou des patients avec cancer. C'est un choix de société qui s'est fait bien malgré nous, bien malgré tout le monde, je pense. Je pense pas que c'est un choix délibéré, mais c'est le choix avec lequel on doit faire.
Merci beaucoup, Dr. Champagne. Bonne journée.
Parfait. Bonne journée.
Merci. Dr. Martin Champagne est le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
C'est vendredi, c'est l'heure des folies et des parodies. On oublie tous nos soucis. C'est vendredi.
Après une autre belle semaine de paix, d'harmonie,
oui.
De respect, le mot respect cette semaine a pris tout son sens.
Bienveillance.
La bienveillance, la compréhension, la main tendue. Vraiment, là, une semaine comme on en voit rarement au Québec. Où les gens ont compris les angoisses des uns et des autres.
Où l'autre était là aussi.
L'autre. Enfin, on a tenu compte de l'autre. C'est le temps de se défouler, mesdames. On a beaucoup de choses. Fabien a bravé les éléments ce matin. Il a mis son...
À la tête d'un convoi, parti de l'autre.
Oui.
Exactement.
Même si les chemins étaient méchants.
Il s'est rendu.
Je me suis rendu.
Bravo.
Mais Paul, c'est vrai, t'as raison. Plusieurs sujets cette semaine où c'est possible de se faire des ennemis, mais je vais tenter de faire naviguer ma chaloupe de blagues sans trop me frapper sur les récifs de l'opinion assassine. C'est beau, hein?
Hey, c'est très beau. Hey,
qu'on m'amène un Émile Nelligan.
Incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, j'essaie de voir le lien, mais c'est sûr qu'il y en a un, là, mais dans ta thématique de marmotte santé et tests de dépistage.
J'arrive, là, mon beau Paul, parce que le 2 février, c'était le jour de la marmotte exact. Cette semaine, la journée officielle des villages qui cherchent une raison de passer à la TV. Et comme solution, ils se sont dit, on va se bâtir une niche à marmotte, puis ils espèrent qu'on va se fier là-dessus pour passer le reste de l'hiver. Bien sûr, je salue chaleureusement, Paul, les gens de Val d'Espoir, en Gaspésie, un très beau village, c'est oui. là qu'habite Fred la marmotte, mais moi, je suis désolé, la marmotte qui voit son ombre ou non, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler les croyances épaisses. Non, mais à l'époque où une famille de 5 avait 15 dents à gang, que les loisirs se résumaient à compter celui qui a le plus de piqûres de punaises de lit d'en face, il y avait peut-être une forme de divertissement à se demander si la marmotte va voir son nom, mais là, hein, Colette Provencher puis Pascal Yakouvakis, ils se trompent de temps en temps. Pensez-vous que je vais faire confiance à un animal qui est pas capable de traverser la rue sans se faire frapper? La moitié des marmottes qui viennent au nombre, au monde, ils finissent sa sfate en gonflant au soleil. Peuvent pas figurer quand passer devant un char. Alors, tu sais, si au moins c'était un animal un peu spécial, hein? Un chevreuil de Longueuil en santé ou le dernier caribou, hein? Ben non, une marmotte. Savais-tu, Paul,
non.
qu'avec un permis de petit gibier, un dossard et un fusil en règle, t'as le droit de tuer ça à l'année des marmottes.
Il n'y a pas de quota?
Il n'y a pas de quota! Dans la terre de chez nous, en 2017, il y a un monsieur qui nous parlait qu'il y en avait 2400 de tués.
Les pauvres. On peut le temps de voir leur ombre.
Ben non, les pauvres marmottes sont là qui se disent, c'est une journée par année, vous nous mettez dans les journaux, vous nous aimez. Là, deux mois plus tard, dans un tournoi de chasse à la marmotte à Beauceville, quand t'en tues une, ça te donne un coupon pour gagner une casquette. Mais bon, regarde, il y a des gens qui croient ça. En fait, aujourd'hui, là, avec Internet en plus, Internet est un outil extraordinaire pour croire à tout. Comme moi, là, je crois pas aux anges, hein. Je pense pas, mettons, que Catherine, hein, chez vous, il y a un ange qui te tient la tête pour pas que tu t'endormes en regardant les émissions que t'es obligé d'écouter. Ou, y a-tu vraiment un ange qui passe la journée chez MC Gilles, tu sais? Un ange un peu lubrique, qui aime l'odeur des vieux vinyles, pis qui le regarde prendre sa douche en se pinçant avec ses ailes? Non.
Tu serais surpris!
On sait jamais, mais je suis allé sur Internet pour voir si les anges existent et j'ai trouvé cette citation. Les anges ont été et sont encore des agents actifs du royaume de Dieu.
Ben.
Bang, mon Paul. Ben, s'ils disent sur Internet, OK, c'est vrai.
T'as fait tes recherches.
J'ai fait mes recherches. Je suis allé sur des sites de santé aussi parce que j'aime toujours ça, moi. Les sites de santé alternatives. Guérissez votre mal de genou avec une roche. Les bienfaits du fenouil pour la douleur au pourtour. Sans oublier, Paul, la fameuse page. Celle-là, elle me fait tout. 5 vertus. Insoupçonné de l'urine. Oui. Il y en a qui font tremper des bobos de peau dans ça. Il y en a qui en boivent. Et pour ceux qui en boivent, vous devriez aller vous faire une réserve sur le bord du Palais de Bonhomme en fin de semaine. Rambo va sûrement avoir 3-4 monsters à pisser à un moment donné. Sinon, ben je termine mon Paul en me repentant parce qu'il y a une nouvelle du 27 janvier qui est passée sous mon radar. C'est pas tout de suite, non. Ça concerne, ça s'en vient par exemple, mon beau Richard. Ça concerne la COVID-19. C'est le Journal de Montréal qui titrait « Le test de dépistage par voie anale critiqué en Chine ». Bon, là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, là. Au lieu de passer le Q-tips dans la narine, il le passe dans le tel-la-da-tel-la-da. Oui! Je m'auto-censure, Paul, parce qu'il y a du monde en train de déjeuner.
Bon réflexe.
Je veux pas que leur crème Budwig passe dru parce que j'ai trop parlé de tam Alors, la population est testée. Les voyageurs qui entrent au pays aussi. Alors, chantons ensemble!
Non, c'est là.
Approchez ma petite madame.
Approchez ma petite madame.
Relevez votre jupon.
Relevez votre jupon.
Que je vous fouille dans le Puis fouille en bas, puis tosse l'hémorroïde, puis tourne la bébé la ya ya. Rétile la COVID ou ben je l'ai pas. Pop dans le ring, bing bang. Hey!
Seigneur!
Regarde, je me suis dit tant qu'à y aller.
Je pensais qu'on appelait ça une coloscopie.
Ouais. Ah, ben écoute.
Je pense qu'on a l'ouverture du en direct de l'univers de Paul. Je suis dépassé parce que je viens d'entendre.
Non, mais Paul, non. Paul, imagine le pauvre gars qui s'inscrit sur le Je contribue de la Chine. Il s'imagine qu'il va flatter la main d'un malade désinfecté d'un civière. Ben non, il l'amène à l'aéroport faire des tests PCR dans le... Hey, puis aux Olympiques, là, c'est des vols qui arrivent de loin. T'es à 15-20 fuseaux horaires de la dernière douche. Comme ils disent, elle est plus crémeuse que traditionnelle.
Seigneur, à ma tête.
Je sais bien. Non, un peu de sérieux, OK? Un peu de sérieux. Les gens qui ont eu à se faire faire un test PCR dans la région mentionnée, ils disent en général que c'est très humiliant. Ce à quoi je répondrais, je sais pas. Qui l'eût cru, hein? Mais tu sais, j'espère que le gouvernement il nous obligera pas à avoir un test de même au service au volant, au stade. Je veux pas me ramasser dans une file de char sur Pierre de Coubertin. Une main sur le miroir, l'autre sur l'appui-tête. L'affaire sortie par la vitre, là. Parce que sinon, je pense que je rejoins les camionneurs fâchés.
On a besoin d'une pause. On a vraiment besoin d'une pause. Amène une pub.
Je m'étouffe.
La genougraphie. Ça n'a aucun sens. Nous allons faire une pause, c'est le cas de le dire. MC, ça va?
Non.
C'est ce que je pense.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.